Quelques mots pour la météo. Une nuit froide avec quelques gelées en montagne et moyenne montagne. En ce qui concerne votre week-end, eh bien, il sera ensoleillé. Un vrai week-end de printemps. 18h, passé de 25 secondes, c'est le retour de Damien Gozioso. Et pour le journal, le pèlerinage qui devait partir de Bétarame dimanche change de parcours.
Ce pèlerinage des vocations, dont le lieu de départ, le sanctuaire de Bétarame, a créé l'émoi et la colère d'anciennes victimes d'abus au sein de l'Institut Notre-Dame de Bétarame, justement. Et face à ça, donc, le diocèse a changé ses plans, Yannick Damon.
Plusieurs victimes de l'Institut Notre-Dame de Bétarame avaient fortement réagi en apprenant que ce pèlerinage devait partir de Bétarame, comme si de rien n'était, avait-elle dénoncé. Depuis plusieurs mois, les témoignages se multiplient pour dénoncer des violences et des abus sexuels commis sur plusieurs décennies au sein de cette institution religieuse. 70 plaintes ont été déposées. Après avoir évoqué une fâcheuse coïncidence et expliqué que le lieu de départ de ce pèlerinage avait été choisi il y a déjà 2 ans, le diocèse a finalement décidé de prendre en compte les protestations des victimes dans un souci d'apaisement et de solidarité avec elles. Le point de départ est donc modifié. Les pèlerins sont invités à se rassembler un petit kilomètre plus loin, près de l'église de l'Estelle, à la base de loisirs du Saillet. Le pèlerinage partira à 14h pour Naï, où la messe de départ sera donnée par Monseigneur Marc Ayet dans l'église Saint-Vincent de Naï à 18h et non plus dans le sanctuaire de Bétarame.
Et le diocèse indique aussi aujourd'hui qu'un temps de prière sera consacré à toutes les victimes d'abus sexuels de l'Église lors de ce pèlerinage dimanche. Donc, un appel à témoins est lancé par la police dans les Hautes-Pyrénées après une rixe le week-end dernier. Dimanche, vers 6h du matin, 2 groupes d'hommes se sont accrochés devant la sandwicherie Le Mistral à Tarbes, le long de la place de Verdun. Un homme a reçu un coup de couteau, d'autres se sont enfuis à bord d'un SUV gris. Si vous avez été témoin de la scène ou si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Tarbes. Les coordonnées sont sur France Bleu.
Un incendie important cet après-midi sur la commune d'Ibos.
Chez Electraline, le feu a pris vers 14h dans un bâtiment industriel qui stocke du matériel électrique. Les dégâts sont importants sur 300 mètres carrés, précisent les pompiers. Le personnel de l'entreprise a été évacué avant l'arrivée des secours. 39 sapeurs-pompiers mobilisés. L'intervention ce soir est terminée. L'inquiétude d'une bonne partie de l'après-midi à Paris, après l'alerte reçue au consulat d'Iran, un homme s'est retranché plus de 4 heures dans le bâtiment. Des témoins affirmaient qu'il portait des explosifs. Ce n'était finalement pas le cas. L'homme a été arrêté et on apprend ce soir qu'il avait déjà, en septembre dernier, tenté d'incendier ce même consulat iranien, Mathilde Lemaire.
Oui, l'homme avait même été condamné en comparution immédiate en octobre. Inconnu de la justice jusque-là, il avait écopé de 8 mois de prison avec sursis pour avoir incendié des pneus devant la grille de ce consulat. Les flammes s'étaient propagées jusqu'à la façade noircie. De ce fait, il n'y avait pas eu de blessés. Il s'agit d'un homme de 61 ans, né en Iran, qui, selon nos informations, avait agi à l'époque, et on l'imagine sans doute encore aujourd'hui, par vengeance, avec une motivation politique contre l'État iranien, responsable, selon lui, de la mort de son frère. Le sexagénaire avait interdiction de porter une arme et interdiction de paraître dans le 16e arrondissement. Il est en ce moment en garde à vue après avoir été interpellé donc peu avant 15h, 100 heures par la brigade de recherche et d'intervention au terme de négociations. La préfecture de police indique que les vérifications à l'intérieur du consulat et dans la voiture de cet homme sont terminées sans qu'aucun explosif n'ait été trouvé. L'homme portait en fait un gilet explosif factice avec de fausses grenades.
L'Iran et ses explosions signalées tôt ce matin dans le centre du pays. Des médias américains, dans les premières heures qui ont suivi, indiquaient qu'il s'agissait de frappes israéliennes en riposte à l'attaque du week-end dernier. D'autres sources assurent qu'il n'y a aucune information faisant état d'une attaque de l'étranger. Dans des réactions toujours très prudentes, plusieurs pays et organisations internationales ont appelé depuis à la retenue.
Des curieux sur la base du 5e RHC ce midi pour voir les hélicoptères et le ministre des Armées.
Sébastien Lecornu en visite hier et aujourd'hui à Pau auprès du 5e régiment d'hélicoptères de combat et du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. Le ministre n'avait pas d'annonce particulière à faire, pas grand-chose à en retenir, mais donc quelques dizaines de personnes s'étaient inscrites pour assister à l'événement, des familles, des militaires et des curieux, comme Christophe et Jessica et leur fils Baptiste, venu de Bayry en Béarn, pour voir Sébastien Lecornu et surtout les hélicoptères.
On aime les armées, on aime les hélicoptères de combat, on aime les avions. Voilà, on habite juste à côté, donc on les voit passer tous les jours au-dessus de notre tête. Voilà, et donc j'ai mon petit garçon qui est fan d'hélicoptères et d'avions. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et c'était une occasion unique pour rentrer au 5e. On est arrivé en premier à 10h15, à l'heure pile, et on a vu tous les hélicoptères. On est monté dedans.
Le Puma, le Caracal, le Cougar et le NH90. C'est super beau.
Après, il a été dedans. On a pu quand même voir les intérieurs avec toute cette nouvelle technologie qu'il y a. Et c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est les différents hélicoptères avec différentes tranches d'âge. Et du coup, l'évolution technologique qu'il y a à bord. On passe des cadrans à aiguilles à des pavés un peu numériques et de haute technologie. Donc c'est vraiment très très chouette à voir.
Les réactions au micro France Bleu Béarn Bigorre de Marion Aquilina. Et sinon, Sébastien Lecornu a rappelé que le 5e RHC et le 4e RHFS de Pau toucheraient plus de 700 millions d'euros d'ici 2030 dans le cadre de la loi de programmation militaire. Les partisans de la défusion de Sainte-Suzanne et d'Orthez ont choisi de ne pas choisir s'il fallait continuer ou pas ce combat-là entre détermination et lassitude. Sur la question, ils étaient réunis hier soir. Détails sur ce qu'ils prévoient pour la suite à lire sur notre site internet francebleu.fr.
18h06, la suite de votre journal avec le programme sport du week-end, avec déjà deux rendez-vous ce soir, Damien.
Oui, à partir de 20h au Palais des Sports de Pau, les Lambernais soit le dernier de Pro B, Fos-sur-Mer, un match important pour l'élan. Pour rester dans la course au play-off, les Béarnais ne doivent pas perdre. En Pro League aussi ce soir, 20h30, le Billet Handball, qui est rentré de Normandie, deux matchs la semaine dernière et deux défaites, eh bien reçoit Ponto Combo, le troisième au classement, le BHB 9e, les play-offs se sont là un petit peu éloignés, mais il faut gagner quand même pour terminer le plus haut possible dans cette saison. Et puis demain après-midi, deux matchs à vivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Béarn Bigorre à partir de 17h. Tout d'abord, section paloise Montpellier. Là, c'est un match pour savoir de quoi sera fait l'avenir pour la section. Soit battre le 13e et s'éloigner de la zone rouge et regarder vers le top 6, soit perdre et donc continuer cette lutte pour le maintien. Le maintien qui ne concerne plus du tout le Pau FC, 9e de Ligue 2, assuré d'être là encore la saison prochaine depuis le week-end dernier, qui reçoit Laval, le 5e. Et en cas de victoire, justement, le Pau FC se rapprochera encore de ce top 5 et pourra continuer à regarder vers le haut. C'est à partir de 19h.